et Jacques Meunier.
À plus d'un titre, le rendez-vous quotidien de l'actualité des livres.
Et bon après-midi sur France Culture. Nous allons passer une heure avec l'écrivain, poète, essayiste et même éditeur Enis Batour. C'est un honneur pour nous que de vous recevoir, Enis Batour, profitant du fait que vous soyez venu en France pour le festival Étonnant Voyageur. Merci d'être venu.
C'est moi qui vous le remercie.
Alors en première partie, on va parler de votre livre, j'allais dire de littérature, D'autres chemins, édité par Actes Sud. Et puis tout à l'heure, à 15h30, pour la deuxième partie, Jacques Meunier vous posera des question à propos de votre essai D'une bibliothèque l'autre, édité par Bleu Autour. Donc vous avez le temps d'écrire, d'éditer, de traduire des fois aussi dans votre édition.
Mais écoutez, la journée, ce n'est pas 24 heures pour moi, c'est 26. J'ai
comment
deux heures
faites?
De plus. Mais je ne peux pas vous donner ce secret, mais j'ai 26 heures pour chaque jour.
Bon, alors on va commencer par justement par ces récits d'autres chemins. C'est vous écrivez en turc, hein, même si vous êtes,
oui.
Même si vous comprenez très bien français, vous avez une éducation française, on peut le dire. Mais vous passez toujours par le turc pour écrire.
Oui, à part un petit texte paru chez Fatma Organa que j'ai écrit directement en français, Istanbul des djinns.
Mm-hmm.
D'ailleurs, une édition à tirage très très limité. 80 exemplaires.
80 exemplaires?
Oui.
Ah, c'est un collector.
Et oui, justement, c'est à cause des œuvres d'art qui accompagnaient le texte que c'était tiré à 80 exemplaires. Ce texte-là, je l'ai écrit en français, mais sinon, j'écris toujours en turc, oui.
Alors, s'il fallait parler donc de ce livre édité par Actes Sud, D'autres chemins, beau titre, c'est un voyage, j'allais dire un voyage. Ben oui, c'est un voyage en fait, un voyage en écriture à travers le temps, la littérature, les arts, enfin tout ce qui vous a, j'allais dire, marqué et façonné.
Oui, écoutez, je les ai appelés des récits autobiographiques, mais au début, j'avais pas l'intention de commencer une autobiographie. Je ne sais pas si les écrivains, de toute façon, se décident à un moment donné à faire une autobiographie, mais moi, je n'y pensais pas tellement. Donc, j'ai commencé à écrire d'abord le premier texte de ce livre. C'est à partir de là que j'ai commencé à comprendre que je marchais vers une sorte d'autobiographie.
Oui.
Et là, j'ai pas voulu écrire mes mémoires. Donc, je suis né à telle date, dans cette ville, de ces parents-là, etc. Non. Je veux diviser ma vie en chapitres inégaux. Donc là, au premier volume, il y a trois textes. Le premier texte, c'est un voyage dans le temps vers mes années d'apprentissage, à l'école et autrement. Le second texte, c'est un texte plutôt malheureux, c'est un voyage vers la mort de mon père. Et le troisième texte, c'est un petit voyage en Turquie, entre deux villes, pour visiter un poète éminent turc, Darlarja, qui a maintenant 94 ans, aveugle comme Homer et Borès, mais notre maître à nous. Donc il s'agit de trois textes de voyage, mais en même temps des voyages dans le temps.
Voilà, voyage esthétique, auto-fictionnel. Il y a d'abord donc Les Chants d'Oiseaux vers septembre, et puis bien sûr Le Soupir des Montagnes. Alors, mais effectivement, il y a quelque chose qui ressemble un peu à, j'allais dire, à l'autobiographie, ne serait-ce que parce que vous racontez à la première personne comment vous avez réagi à certaines œuvres d'art, à certains écrivains. Vous mettez aussi vos photos.
Oui. Écoutez, les images, on peut plus se séparer des images maintenant. C'est-à-dire, j'ai du mal à concevoir des livres sans images depuis une dizaine d'années. Parce que ça nous accompagne. Il y a tellement un grand afflux d'images, une pluie d'images. Donc, il faut savoir les choisir, les éliminer, et puis les utiliser.
Pour mieux les dompter, quoi.
Oui, et puis pour compléter d'une certaine façon l'écrit. Au lieu d'écrire, disons, une vingtaine de lignes ou plusieurs paragraphes, vous mettez une photo qui résume un peu tout, des fois.
Ouais. Mais justement, l'écriture, c'est pas le contraire de la photo, de voir, c'est-à-dire essayer par les mots à représenter pour laisser l'imagination du lecteur, c'est au lecteur de reconstituer l'image, même si effectivement, au bout, il y a toujours une image qu'on se fait.
Mais c'est ce qu'on a toujours fait. Ouais. On peut changer un peu de trajet pour partager la page entre l'image et l'écrit. Je vais pas dire que je peux faire un livre à partir uniquement d'images, par exemple.
Non.
Chose qui est possible quand même. Faire un roman même, photoroman sans écrit.
Oui. Ça vous tenterait ça, Inis Batour?
Oui, j'y pense, surtout pour l'histoire de 25 dernières années de la Turquie. Je pense à faire un roman à partir de cette période du pays, en utilisant des photos uniquement, pas une seule ligne.
Mais des photos, j'allais dire publiques, ou des photos que vous allez piocher chez des gens, c'est-à-dire des photos...
Non, des photos publiques, publiées dans des revues, dans des journaux, etc. Mais pas toujours les grands moments de l'histoire du pays, non. Des photos de faits divers, des photos de publicité, parce que si vous arrivez à composer correctement une ligne à partir de toutes ces photos, ça devient un récit, une narration.
N'est-ce pas paradoxal pour un écrivain, justement, de ne plus passer par les mots pour raconter?
Oui, c'est paradoxal, mais c'est pas pour rester longtemps là-bas, quand même. On reviendra, bien entendu, à l'écriture, comme toujours. Mais j'ai écrit plus de 100 livres, imaginez. Et je peux me donner le droit de faire une fois un livre sans écriture, pourquoi pas?
Ouais. Et je vous comprends très bien pourquoi, parce que ça se vendrait mieux en Turquie. Là, je m'adresse plus à l'éditeur.
Ah non, moi je pense jamais à la vente.
Oui.
Vous savez, pour ce livre-là, D'autres chemins, j'ai proposé à l'éditeur français un autre titre, Sauf aux riverains. Mais ils m'ont dit, écoutez, c'est pas gentil pour les lecteurs, parce qu'il faut mettre le sens interdit et puis écrire Sauf aux riverains, donc c'est pas pour moi, ça veut dire. Mais je disais, ben écoutez, il faut garder le livre quand même un peu de tous les lecteurs. On n'écrit jamais pour tout le monde. Donc, il faut laisser le temps de feuilleter les pages, etc., à partir de ce titre, peut-être. Mais j'ai été refusé, gentiment.
D'autres chemins. C'est ainsi que la traduction française a décidé de présenter vos derniers récits, ces trois récits réunis en un ouvrage, édité par Actes Sud chez nous, traduit du turc par Ferda Filan. On va commencer par parler de la première partie, puisque c'est en trois parties, Chant d'oiseau.
Écoutez, c'était en 96. À un moment donné, j'ai pensé que tout ce que j'avais fait jusqu'aujourd'hui, c'était grâce à un professeur de français qui était notre guide, plus ou moins, en 68 à Istanbul. C'est grâce à lui que j'ai découvert l'art de la littérature, l'art du cinéma, même la musique. Parce que c'était un jeune frère catholique qui venait avec un souffle tout à fait nouveau à Istanbul de Paris. Et puis, comme on avait à cette époque-là l'habitude de travailler avec des professeurs d'un certain âge, qui avaient la conception plutôt du 19e siècle, style 19e siècle, on travaillait toujours sur le texte de Flaubert, de Balzac, de Baudelaire. Mais lui, il nous a amené tout de suite, au jour même. Donc, je me souviens que j'ai été un peu stupéfait de voir des textes tout à fait nouveaux de Michel Butor, de Nathalie Sarraute, de Samuel Beckett, ces écrivains qui étaient tout frais à cette époque-là. Ce fut un bouleversement pour moi. Et c'est à partir de là que j'ai eu envie de composer des textes moi-même. Et lui, il nous a quittés après une année d'enseignement. Il a retourné en France. Et à un moment donné, je me suis dit, mais il faut que je le trouve pour lui expliquer que c'est grâce à lui que je suis devenu un écrivain, un homme de culture, etc. Tout ça. Justement, ce premier texte relate mon petit voyage de Paris à Troyes à sa recherche.
Mais alors, mais d'abord, pourquoi vos parents vous ont inscrit dans cette école religieuse française ?
Ben écoutez, j'appartiens à une famille typiquement turque, progressiste, un père laïque. Et pour eux, pour cette génération, c'était très important que les enfants font des études dans des écoles étrangères, parce que dans les écoles turques, on n'apprend pas de langues étrangères, le niveau de la culture est un peu moins développé que les écoles étrangères. Et à Istanbul, il y a pas mal d'écoles étrangères. Il y a les lycées Saint-Joseph, Saint-Benoît, Saint-Michel, Notre-Dame de Sion, Sainte-Pulcherie, et puis des lycées allemandes, anglaises, américains. Et ma sœur aînée avait fait des études chez les Américains. Donc mon père a préféré pour moi, enfin, en me donnant un certain choix quand même, de faire mes études secondaires soit chez les frères français, soit chez les Allemands. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai opté pour le français.
En tout cas, votre père, il avait la notion de diversité culturelle à la maison.
Ah oui, ah oui. Mais écoutez, les Turcs sont les héritiers d'un empire. C'est une petite république, mais c'est un grand empire, l'Empire ottoman. Donc, ils avaient le sens de la diversité de la culture. Ouais. Il y avait le grec, l'arménien, le turc, le juif, les pays de Balkans, les pays arabes. Tout ça faisait partie pendant longtemps de l'Empire ottoman. Donc, ils se connaissaient dans cette matière, plus ou moins.
Enis Batur, vous avez déjà raconté ça dans Amer Savoir, hein, sur cette éducation très française, sur vos errances françaises. Vous revenez aussi pour raconter dans ces récits d'autres chemins que publie Actes Sud, ce passage par la France. Enfin, c'est la France qui est venue à vous, j'allais dire, avant de découvrir la France.
Oui, oui.
Grâce à ce professeur.
Grâce à ce professeur, grâce à cette école, bien que traditionnelle, on a quand même connu toute la culture mondiale à travers la langue française. Ça, c'est important. Parce qu'au début, à l'école, on lisait les textes français uniquement. Mais à partir d'une certaine date, quand je me suis intéressé à la littérature en général, alors j'ai lu tous les étrangers à travers le français quand même.
Traduit en français, ouais.
Oui, les Allemands, par exemple. Je connais pas l'allemand. Je connais l'anglais, je me débrouille, mais pour l'allemand,
pourtant,
l'italien...
Pourtant, il y a de très bonnes traductions turques, hein, des auteurs américains, peut-être pas allemands, mais...
Maintenant.
Oui.
Pas dans les années 60, 70, il y avait peu de traductions, quand même. Les milieux de l'édition étaient un peu restreints, il n'y avait pas beaucoup de budget, donc il y avait peu de publications.
Alors vous qui aviez déjà des affinités avec la France, avec la culture de la France, les affinités de la France, et je suppose tout ce qui se passait au niveau politique de la France, comment, à partir d'Istanbul, Enis Batur, vous avez assisté de loin aux événements de mai 68, vous n'allez pas échapper à cette question, on la pose à tous nos invités en ce moment. Mais votre regard, à partir d'Istanbul, effectivement, pourrait être intéressant.
Mais écoutez, ça s'est passé avec une grande décalage quand même, parce que en mai 68, j'avais 16 ans. Donc, j'ai appris ce qui s'est passé 2 années plus tard. Enfin, j'ai appris pas toutes les façades de ce qui s'est passé, mais une partie. Et puis, il y a eu quand même les reflets en Turquie, dans les milieux étudiants, etc., tout ça.
Intellectuel, ouais.
Oui. Et puis...
Mais quel décalage, 2 ans. C'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les antennes paraboliques, enfin, il n'y avait pas les chaînes satellitaires, mais 2 ans, c'est énorme.
Oui, mais la Turquie était un peu refermée sur elle-même, à cette époque-là. C'est à partir des années 80 que la Turquie s'est ouverte au monde. Même la télé, elle était complètement complétée, comme en France d'ailleurs, oui. Mais complètement contrôlée par l'État. C'est à partir des années 80 qu'il y a eu des télévisions privées, etc., tout ça, beaucoup de radios. Avant, ça n'existait pas.
Donc, 2 ans après mai 68, comment vous avez, vous, réagi? C'était quoi votre regard
Tout s'est mêlé un peu. C'est-à-dire, il n'y avait pas que le mai 68 de parisien. Il y avait les émeutes des étudiants allemands, italiens. Et puis tout ce qui s'est passé
à Prague,
du côté du mouvement hippie quand même,
oui,
aux États-Unis. Tout ça, c'est devenu un amalgame important pour nous. D'où ma décision de partir en 71, en Europe d'ailleurs. Ouais. J'ai pas voulu rester en Turquie qui ne bougeait pas. Je voulais vivre dans un sein qui bougeait. C'est pour cela que je suis venu à Paris.
Et c'est pour ça, Enis Batur, qu'on vous présente comme un écrivain européen.
Oui, je me considère comme un être humain qui appartient plutôt à la civilisation européenne. J'ai des souches orientales que je ne refuse pas. Je viens de la Turquie. J'utilise ma langue maternelle. Mais je me considère comme un Européen. Même des fois beaucoup plus que la plupart des Européens. Parce que être Européen, c'est une mode de pensée quand même.
C'est-à-dire...
une mode de civilisation.
Ouais.
Ben, il y a des Européens qui ne partagent pas cet avis. Et il y en a eu toujours. Une fois, à Strasbourg, on m'a posé une question sur la présence de la Turquie dans l'Union européenne. Est-ce que vous êtes pour ou contre, au Mali ? Et j'ai répondu, mais ça dépend de quelle Europe. Ici, à Paris, il y a vous connaissez la rue Verneuil, bien entendu. Il y a deux maisons face à face. La maison de Robert Schuman, le fondateur de l'Europe d'acier et du charbon, une maison toute blanche, toute propre. Et en face, il y a la maison de Serge Gainsbourg, avec tous les graffitis. Moi, je me considère de ce côté-là, de la maison de Gainsbourg.
Ouais.
Mais je sais bien que l'autre maison aussi représente une certaine Europe. Mais c'est pas une Europe que...
qui vous attire.
Oui, c'est ça. C'est l'Europe du commerce, de grands États, etc., tout ça, de l'union commerciale, l'union économique... Pour moi, c'est la culture, la civilisation européenne qui est beaucoup plus intéressante.
Est-ce que vous pensez que tous les Turcs sont aussi européens que vous, Enis Batur ? Ou est-ce que vous avez une histoire bien particulière ? D'abord, vous êtes stambouliote.
Oui.
Istanbul, une éducation française.
Oui. Je ne représente pas mon pays. Je me représente.
Comment vous réagissez au débat, souvent violent d'ailleurs, concernant l'adhésion ou pas de la Turquie à l'Union européenne ? Qui secoue, j'allais dire, périodiquement la classe politique française. Ça a été même un argument de la campagne présidentielle,
oui.
Comme vous devez le savoir.
Mais écoutez, d'une part, je peux dire qu'ils ont raison. Les Allemands, les Français, les Autrichiens, qui ne veulent pas tellement la présence d'un pays...
avec... Contrairement aux Italiens, par exemple.
Oui. Un pays qui a des paramètres culturels différents, une mode de vie différente. Mais d'autre part, je me dis qu'il n'y a pas grande différence entre les paysans portugais, les paysans roumanais et les paysans turcs. C'est la même chose.
S'il fallait chercher une différence, on s'acheminera vers la question religieuse.
Oui, mais en tout cas pas par rapport à l'idée européenne, je veux dire. Mais si on regarde les histoires de religion, il y a pas mal de problèmes déjà au sein du christianisme en Europe. Et puis il y a les agnostiques, les athées, il y a tout ça. Donc pourquoi pas des musulmans ? Et puis il y a des musulmans qui sont européens déjà. En France, il y a combien de musulmans qui sont européens ? Il y en a beaucoup. Et qui sont vraiment européens non plus ? On ne sait pas exactement comment ils vivent, est-ce qu'ils font partie vraiment de cette idée de l'Europe.
Ce n'est pas présent dans vos récits, comme si ces problèmes étaient très importants. Ils ne sont pas si présents, du moins dans ce livre, D'autres chemins, Enis Batur. Ouais.
Mais écoutez, j'ai écrit des textes plus ou moins politiques, des fois, mais pas très souvent, parce que j'appartiens à une génération qui au début... était encerclé par les sujets politiques, par les idéologies, etc. Et ma réponse a été de me tenir à distance de tous ces bavardages politiques qui ne servaient pas à grand-chose. Les intellectuels, ils ont perdu beaucoup de temps en Turquie en faisant des débats sur des sujets qui ne valaient pas grand-chose. Et maintenant, de toute façon, ils sont loin de là. Ils continuent leur bavardage. C'est un spectacle pour nous. En Turquie, on voit, c'est une sorte de gymnastique intellectuelle. Et je sais bien que ça ne servira pas à grand-chose non plus, parce qu'ils ne sont pas écoutés par le peuple. Donc, au lieu de m'occuper de tout ça, Je mets un peu à l'écart les sujets politiques en écrivant. Mais quand même, j'écris des articles là-dessus.
Pourquoi, Enis Batour, quand vous écrivez, vous avez en tête cette envie de participer à un débat public, d'influencer les gens, d'attirer des lecteurs, d'engager un débat? Est-ce que c'est présent chez vous quand vous attaquez l'écriture d'un récit d'un...
Non, pas du tout.
Pardon?
Pas du tout.
Oui.
C'est-à-dire que je vais écrire des textes, si possible... qui, à l'épreuve du temps, peuvent résister. Sinon, ce n'est pas la peine d'écrire pour moi. Il y a des écrivains qui choisissent d'écrire pour leur présent. Je suis pas, je n'appartiens pas à ce genre d'écrivain.
Vous pouvez toujours préférer avoir le recul.
Oui, parce que j'ai un autre côté quand même. En tant qu'homme de culture, entre guillemets, j'ai fait de l'édition, j'ai fait pas mal d'activités culturelles pendant plus de 20 ans en Turquie, et j'ai participé directement à ce que les milieux littéraires ou non littéraires puissent rencontrer de nouveaux œuvres, de nouveaux personnages, de nouvelles idées, etc. Donc j'ai fait de mon mieux de ce côté-là. Mais il ne faut pas confondre ça avec l'écriture.
Enis Batour, d'autres chemins chez Actes Sud, où vous parlez de vos maîtres et de vos influences. Ça peut aller de Fahreddin Attar, donc le poète soufi, à Rousseau, de Heidegger à Pétrarque, de Montaigne à Sakir Afendi.
Ouais. Ben c'est un volet un peu, un inventaire un peu large, mais pour quelqu'un qui est né au Moyen-Orient, c'est un peu logique. Donc on connaît d'abord la langue turque, un peu l'ottoman qui en grande partie était influencé par la culture persan surtout, et comme c'est un pays islamiste, on connaît plus ou moins la culture arabe, pas beaucoup mais un peu, et puis comme c'est un pays qui s'est tourné vers l'Occident dès les premières années de la République, on a des rapports avec la culture occidentale. Donc un intellectuel turc, normalement, a des affinités assez larges.
Alors en tant qu'éditeur, vous avez effectivement publié quelques classiques français, Proust par exemple, vous étiez le premier à éditer Proust.
Ben, écoutez, j'ai fait plus de 2500 titres en l'espace de 15 ans, parmi lesquels il y avait Le voyage au bout de la nuit de Céline, l'ensemble de À la recherche du temps perdu de Proust, Georges Perec, Michel Butor, Bouillet, Balzac, d'auteurs français.
Et parmi ces auteurs, quels sont les auteurs qui ont eu du succès aujourd'hui en Turquie?
Écoutez, pour les classiques, je crois que les jeunes générations, ils ont un peu de recul. Ils veulent connaître les auteurs beaucoup plus proches de leur temps. Donc, il y a eu des écrivains comme Perec, par exemple, qui a
eu un certain succès.
Oui, oui.
Qu'est-ce que vous appelez un certain succès en Turquie aujourd'hui, à Istanbul
Ben, ça dépend, vous savez. Je ne dirais pas ça pour Perec peut-être, mais il y a des livres qui vendent à 1 million d'exemplaires. Ben oui.
D'écrivains turcs ou d'écrivains...
Des écrivains turcs et étrangers, oui. Et puis il y en a d'autres qui vendent aux alentours de 100 000, 50 000. Un écrivain turc comme Orhan Pamuk. Ben oui. Mais 70 millions quand même, la population. Alors ça va de mieux en mieux de ce côté-là. Il y a des écrivains turcs comme Ahmet Altan qui est publié chez Actes Sud qui vendent à 1 million d'exemplaires en Turquie.
C'est pas mal. Et pour les auteurs français?
Ben ça dépend. Disons dans les 10 000, 15 000, les meilleures ventes.
Oui.
Pas toujours. Pas Balzac par exemple, le pauvre.
Ouais. Très bien. Alors, parlons maintenant effectivement de ce que vous racontez dans ces récits, Enis Batour, et particulièrement sur vos rêves. Ici, on parlait de vos rêves et de vos sommeils. Est-ce que, par exemple, quand vous étiez à Saint-Malo, je pense que ça doit être tellement dépaysant pour vous que peut-être que vous avez eu des nuits animées par des rêves.
Oui, mais pas toujours. On ne se souvient pas toujours de ce rêve. Mais quand même, j'ai un petit catalogue de rêves. J'avais commencé à écrire mes rêves à partir des années 70, assez tôt quand même. Et des fois, je notais ce que j'avais mangé et bu la nuit avant de me coucher. Peut-être qu'un jour, des médecins qui ont des goûts littéraires peuvent travailler sur ce texte en regardant le menu du soir, quel genre de boisson ou quel genre de... Par exemple, les coquilles Saint-Jacques me font rêver, mais dans le sens cauchemaresque. Je ne sais pas pourquoi, j'ai des problèmes de digestion peut-être en ce qui concerne les coquilles Saint-Jacques, mais chaque fois que j'en mange, je fais des rêves terribles.
Donc vous faites une relation entre votre dîner et les rêves qui...
Oui, ouais. C'est-à-dire que...
Ou du moins vous essayez.
Oui, enfin on mange avec les yeux, avec le nez, avec la bouche, avec les oreilles, il y a tout pour un rêve.
Enis Batour, vous écrivez dans D'autres chemins, le premier récit, « Je n'ai jamais entendu personne parler du temps qu'il fait dans le sommeil, et je ne l'ai eu nulle part. » Or, il y a de quoi parler. D'abord, la saison du sommeil est différente. Il arrive que je me retrouve sous un climat glacial pendant une nuit d'été. Les circonstances aussi sont différentes. En plein milieu d'une nuit où dehors, aucune tache, aucun nuage n'apparaissent dans la voûte céleste. Il est arrivé que mon sommeil fut bouleversé par une atmosphère d'ouragan.
Parce que le rêve, c'est un condensé de temps différent. Dans la nuit du 6 mai 2008, je peux voir un rêve qui se passe avant ma naissance, peut-être. Et une autre partie dans mon enfance, une autre partie dans le futur. Donc il peut s'agir de plusieurs temps et plusieurs situations atmosphériques. Et ça ne correspond pas toujours à l'atmosphère qui règne cette nuit même. En plein été, je peux faire un voyage en Sibérie, à travers les grandes neiges. Oui, ça nous arrive à tous.
Enis Batour, donc, pour D'autres chemins, c'est édité par Actes Sud. Avant de laisser Jacques Munier vous questionner à propos de votre essai d'une bibliothèque, l'autre, édité par Bleu Autour, je voulais juste vous poser une question. Comme vous profitez à chaque fois que vous venez en France pour acheter des livres, pour prendre avec vous des livres, quels sont les livres que vous allez prendre avec vous à Istanbul?
Ah oui, j'en ai acheté beaucoup, mais je travaille sur le thème de Faust, de Méphistothélès.
Ouais.
Donc j'ai cherché partout des livres, enfin toutes les versions possibles de Faust, parce qu'il y en avait que je ne possédais pas, et puis des travaux là-dessus. Et je me suis pas arrêté là, j'ai récupéré quelques livres sur le diable, etc., tout ça, donc...
Ça, c'est l'écrivain qui choisit ses livres. Et le lecteur,
Lecteur, j'ai dernièrement lu le dernier roman de Gustav Herling, et puis j'ai attaqué Suicide, de Édouard Levé.
Et alors?
C'est pas mal. Sauf que le pauvre, il s'est suicidé, vraiment.
Voilà. Enis Batour, D'autres chemins, c'est édité par Actes Sud. Vous restez avec nous jusqu'à 16h pour la deuxième partie que va animer tout de suite Jacques Munier.
Thank you. À plus d'un titre, deuxième partie, en écoutant avec vous, Élise Batour, Le réveil des oiseaux d'Olivier Messiaen. Voilà, Élise Batour, vous êtes un écrivain important en Turquie, une figure de proue comme Orhan Pamuk de la littérature turque. Alors, on a décidé de ne pas vous lâcher aujourd'hui, de vous garder tout au long de cette heure. Mais nous allons parler avec vous d'un essai. La deuxième partie d'A plus d'un titre est traditionnellement consacrée aux essais. Il s'agit bien d'un essai que vous avez publié donc aux éditions Bleu Autour sous le titre D'une bibliothèque l'autre. Je dirais même que c'est une série d'essais, de petits essais, au sens que Montaigne donnait à ce mot, c'est-à-dire celui d'un exercice intellectuel consistant à mettre son jugement à l'essai, sans craindre les contradictions ou les impasses, d'autant que, vu le sujet choisi, d'une bibliothèque à l'autre, c'est évidemment le piège du labyrinthe qui ne cesse pas de menacer la progression. Alors, une bibliothèque présente d'ailleurs de nombreuses analogies avec le psychisme et l'inconscient, et c'est donc un parcours très personnel et inspiré que vous nous proposez, Élise Batour, dans ce livre, dont le titre, D'une bibliothèque l'autre, comme l'indique votre préfacier, Alberto Mengel, pourrait être celui d'une autobiographie. Le titre projeté pour la première édition de cet ouvrage en Turquie, donc il y a maintenant quelques années, en 2002, je crois.
J'ai commencé à écrire le livre en 2002, le livre est paru en 2005.
Voilà, ben c'est tout récent, donc ben le titre turc, c'est Histoire d'un autre labyrinthe. Donc voilà, on est. Qu'est-ce qui vous a fait préférer ce titre en français, Élise Batour ?
Ben c'est pas moi, c'est l'éditeur, parce que, enfin, nous avons partagé quand même les mêmes idées là-dessus. Cet essai est paru en turc aussi, en un volume séparé, mais je vais ramasser tous ces essais en un seul volume, en fin de compte. Il s'agit d'un paquet de 10 essais. La bibliothèque était le 10e. J'ai écrit déjà des textes sur les hôtels, les cirques, les prisons, les gares. Quoi d'autre? Le palais, oui. Mais pas le palais de Facteur Cheval.
D'accord.
Un palais spécifique. Donc, c'était des textes qui se concentraient sur des topographies. Et la bibliothèque, je l'ai laissé au dernier parce que c'est la topographie la plus importante pour moi. Je vis dans une bibliothèque, plus ou moins. Comme tous les écrivains, comme tous les lecteurs. J'ai voulu le laisser à la dernière partie. Et quand j'ai commencé à écrire le livre, j'ai compris que j'écrivais ce livre pour pouvoir écrire un autre livre sur la bibliothèque, qui est en cours maintenant.
D'accord. Alors ça fait partie de vos projets.
Oui.
Alors le livre, celui dont nous parlons, D'une bibliothèque l'autre, débute évidemment par la chronique de toutes les destructions volontaires ou accidentelles de grandes bibliothèques du passé, jusqu'à celle de Sarajevo d'ailleurs.
Oui. Justement, on était partis avec Alberto Mengel ensemble à Sarajevo. C'était un moment un peu brisant pour tous les écrivains ou les lecteurs ou les gens du livre, de voir dans cet état une bibliothèque et incendiée récemment en plus. Et on n'a plus d'espoir dans ce cas-là. Parce que quand on parle des incendies d'il y a 2000 ans, ça va, ça passe. Ou disons, tout ce qui s'est passé au XIIIe siècle, par exemple, on peut l'accepter beaucoup plus facilement. Mais quand on vient aux années 90, de voir tout ce qui s'est passé à Sarajevo veut dire que ça peut se passer le lendemain autre part. Et ce qui a été déjà fait à Irak, par exemple, tout a été basculé. Il y a eu pas mal de pertes manuscrites très importantes, soit volées, soit vandalisés ou incendiés.
Vous avez cette formule à propos justement de ces bibliothèques qui disparaissent, d'autant de temps qui s'efface.
Oui.
Et bon, vous remontez à cette histoire que j'ignorais complètement. En 747 avant notre ère, le roi de Babylone a fait détruire tous les ouvrages qui ne traitaient ni de lui ni de sa famille.
Oui. Ça paraît comme une blague, mais c'est une vérité atroce. Mais quand on pense à la révolution culturelle de maoïste, on voit bien que ça oui, se là répète.
Aussi.
Là aussi, enfin, heureusement, ils n'ont pas pu annuler tout, mais il y a eu pas mal de pertes.
Alors c'est peut-être ça qui vous fait cauchemarder, Enis Batour, vous racontez le cauchemar que vous faites d'une bibliothèque universelle, mais quand même un peu sépulcrale, où, dites-vous, même le silence se charge de poussière.
Et il n'y a pas que les incendies.
Vous vous trouvez en quelque sorte prisonnier, c'est pour ça que je parlais de labyrinthe aussi.
C'est-à-dire quand on voit les très grandes bibliothèques. Maintenant, on n'arrive pas à les voir visiblement de vue. Enfin, les livres, ils sont derrière les murs. Mais avant, les grandes bibliothèques étaient grandes ouvertes. Donc, on voyait des livres en énorme quantité, en pleine poussière, désolés, abandonnés par les lecteurs. Et on ne peut pas dire que ces livres-là étaient de mauvais livres. Il y en a qui sont oubliés, il y en a qui attendent qu'un bon lecteur les trouve, comme c'était le cas de L'Otréamon, ouais. Par exemple. Si Rémy de Gourmont n'avait pas découvert le volume des Chants de Malherbe, je me demande qu'est-ce qui serait passé en ce qui concerne ce poète. C'est des hasards.
Alors justement, vous évoquez un peu plus loin une autre notion que j'ai trouvée très intéressante, celle de la dynamique d'une bibliothèque. Alors vous avez essayé d'ailleurs d'une certaine façon de l'évaluer pour vous-même, pour votre propre bibliothèque, c'est-à-dire en fait, on va dire, prendre la mesure des livres qui arrivent, de ceux qui sortent, qui quittent la bibliothèque, de ceux que vous prêtez, qu'on vous vole, que vous donnez.
Ouais. Mais écoutez, j'avais rencontré Brochier, le directeur ancien de magazine littéraire. Et lui, il m'avait dit, moi je reçois tous les jours plusieurs colis de livres. Je dis, qu'est-ce que vous en faites? Je les ouvre, je fais un choix en toute hâte, et puis je les laisse pour que les libraires de seconde main peuvent les utiliser. Et ça, j'avais trouvé ça très féroce. C'est pas mon cas. Moi aussi, je reçois beaucoup de livres, comme j'ai été éditeur, etc. Je fais des articles dans des journaux, alors les gens m'envoient des livres. Alors chaque fois, chaque jour, je mets une heure, deux heures devant eux pour faire un choix. Je peux pas tout garder, c'est pas possible. J'ai déjà une bibliothèque de 20 000 volumes, donc il faut que j'élimine. Mais ça suffit pas.
Je vous écoute attentivement, Elise Batou, que j'ai un peu le même problème.
Oui, mais nous avons tous les mêmes problèmes en ce qui concerne les livres.
Alors comment faites-vous?
Mais écoutez, je fais ce que tout le monde fait. De temps en temps, je revisite les étagères pour pouvoir me séparer de certains livres. Parce que un bon lecteur, à mon avis, c'est un malade. Ça lui suffit pas d'acheter un seul volume d'un livre, il l'achète en plusieurs éditions, par exemple, et il veut les garder quand même. Alors que, par exemple, trois traductions de Dostoevsky du même roman.
Oui, des frères Karamazov.
Oui, oui. J'ai eu cette.
Mais là, aujourd'hui, vous n'en avez plus, vous dites.
Si, je l'ai acheté.
Vous avez accepté de vous en séparer. Si, non, quand même.
Mais des fois, il nous arrive des choses terribles. J'ai eu pas mal d'amis qui ont vécu la même chose. Après un divorce, par exemple, un écrivain qui perd sa bibliothèque. Moi, j'ai vécu ça en 86. Je me suis trouvé à zéro devant un mur vide, pas d'étagère, pas de livres. Mais c'est pas mal comme aventure de recommencer une bibliothèque.
Vous avez une belle formule à ce sujet, Enis Batour. Vous dites que la bibliothèque constitue le mur porteur de votre maison.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et puis c'est peut-être une garantie envers la grande solitude qui de temps en temps nous dérange. On est entouré de pas mal d'amis. de toutes les époques, de toutes les langues. Donc on peut avoir des relations avec l'un d'eux ou avec un autre. Dès que on se sent perdu dans une forêt. Une forêt de livres. Mmh.
Mmh. Alors, bon, il y a beaucoup d'aspects, évidemment. Il y a plusieurs essais, hein, je l'ai dit, dans cet ouvrage. À un moment donné, vous vous posez la question de savoir comment reconstituer une bibliothèque. On vient de parler de la dynamique d'une bibliothèque, le fait que la bibliothèque soit également le reflet, vous dites, de l'unique saga, de l'unique récit que constituent vos lectures au fil du temps, et finalement comme une image de ce fil qui court d'un livre à l'autre, et donc quelque chose de parfaitement unique, qui vous dites aussi, montre-moi ta bibliothèque, je te dirai qui tu es. Ça, c'est,
C'est un exercice que nous faisons tous, oui, quand on visite la maison de quelqu'un que l'on vient de connaître. Si la bibliothèque, elle est présente, elle est dans ma chambre, elle n'est pas loin, on jette un coup d'œil quand même pour mieux connaître ce personnage.
Ça vous est arrivé d'ailleurs en louant une maison à un moment donné, vous oui. êtes là, au cours d'un séjour en France, oui. vous racontez ça, cette découverte.
Et ça m'est arrivé maintenant aussi, justement j'ai loué une maison dont les propriétaires sont des Italiens, donc il s'agit d'une bibliothèque complètement en italien. Ça aurait pu être en chinois ou en japonais. Mais ça fait du bien de voir des livres dans une maison qu'on loue.
Oui, oui. Alors, on évoquait avec vous, Enis Batour, au départ, ce cauchemar que vous faites, hein, qui est en fait, on va dire, le cauchemar de la bibliothèque universelle. Et vous concluez en disant, réalité un peu pesante, une pieuvre recouvre l'univers. De sa poche à la pointe de mon stylo, elle fait descendre au compte-gouttes une écume noire.
Oui.
Et j'allais vous demander justement le lien que vous, au cours d'un de ces essais, vous tentez de faire entre l'art d'écrire et l'art de lire. Vous avez également, Enis Batour, consacré un livre à l'histoire de la lecture.
Oui, c'est-à-dire même plusieurs livres qui sont composés des parties différentes sur la lecture, sur la bibliothèque personnelle, sur la bibliothèque collective, et puis les différentes parties du livre, de la préface jusqu'à la postface, et puis les petits détails, la quatrième de couverture, etc., tout ça, et puis les éléments de l'écriture, l'encre, le stylo...
Les caractères.
Le papier, les différents papiers, etc., tout ça. Avec le temps, on s'intéresse à tous les détails de l'univers de l'écriture. Les tables de travail, les chaises, les lampes, et tout ça, ça fait partie d'un univers dont le centre est le livre. Et puis, j'appartiens à une civilisation qui a quand même qui est venu assez tard à imprimer les livres, donc les manuscrits étaient très importants chez nous en Turquie. Et, vous savez, je travaillais dans une institution à une époque donnée, et on m'a parlé de la présence d'une bibliothèque qui n'était pas sur les étagères. J'ai dit, ben, où elle est? Dans des boîtes, ils sont dans un dépôt. Alors, on a remonté cette bibliothèque dans une salle de bibliothèque, et là, on a découvert plus de 2500 manuscrits. 2500 manuscrits à partir du 15e siècle jusqu'au 19e siècle. C'était un trésor inouï.
Oui. Et il y a des retours inattendus aussi, oui. hein, même s'il y a quelques disparitions, Enis Batour.
Oui, des fois, oui, ouais. Heureusement d'ailleurs.
Mm-hmm. Et ces manuscrits, finalement, vous les avez certains publiés ou non?
Oui, il y en a eu qui sont... On a d'abord fait le catalogue des manuscrits, publié le catalogue, et puis les recherches ont commencé. Les académiciens, les universitaires travaillent là-dessus. Parmi les 2500, au moins 2000 n'étaient pas mentionnés dans d'autres catalogues. Donc c'est de vraies découvertes.
Mais oui. Alors, on parle de bibliothèque, et vous rappelez, Enis Batour, que vous n'êtes pas, loin s'en faut, le seul écrivain à avoir été fasciné par cette
Oui, justement.
Réalité de la bibliothèque.
C'est un tribut, à mon avis. Les gens du livre, ils ont toujours existé, et un peu partout dans le monde. Et à partir d'un certain moment, j'ai pensé qu'il y avait un maître de livres, toujours. C'est Borges qui nous a donné cette idée, en fin de compte, de la grande idée de la bibliothèque et du livre. Donc c'était le maître sans exception, lui.
Mais vous évoquez également Montaigne, Mallarmé, Jabès, oui. Umberto Eco, évidemment, et votre ami Alberto Manguel.
Oui, ce sont des écrivains qui ont le plus pensé sur la notion du livre, justement. Le grand essai de Montaigne, par exemple, c'est un très important point de départ. Et puis, avec des poètes ou des écrivains comme Mallarmé, on voit les frontières du sujet, jusqu'où on peut aller. Et avec Jabès aussi. Et j'ai traduit moi-même certains textes sur le livre de Jabès de Mallarmé en turc pour pouvoir composer ce livre. Et après la mort de Borges, je me disais moi-même, qui va diriger tout cet univers de bibliothèque, soit Umberto Eco, soit Alberto Manguel. J'ai fini par décider que ce serait Alberto Manguel, parce que c'est un ami à moi.
Mmh. Ouais, il dit dans sa belle préface d'ailleurs à quel point il se sent proche de vous, puisqu'il rappelle que les hasards, des biographies de ses ascendants ont fait qu'il n'est pas né à Istanbul, mais qu'il aurait pu.
Eh oui, il a failli.
Oui, voilà. Alors, vous évoquez quelques grandes bibliothèques, notamment celle de l'abbaye de Melk, que je ne connais pas d'ailleurs, c'est vous qui l'évoquez. Est-ce que vous pouvez nous raconter quelques souvenirs justement de parcours dans quelques-unes des grandes bibliothèques du monde ?
Oui, la bibliothèque de l'abbaye de Melk, c'était...
En Autriche.
En Autriche.
Fait du très bon vin d'ailleurs, sur ces rives du Danube.
Et puis on fait un très beau voyage à travers le Danube jusqu'à Melk par bateau. C'est là que Umberto Eco, justement, avait organisé des concerts à partir de Le Nombre de la Rose. Mais cette bibliothèque n'est pas la seule intéressante, disons la bibliothèque de Parme, par exemple, qui est vraiment fascinante. Et puis,
qu'est-ce qui vous fascine dans cette bibliothèque, Élise Batour?
D'abord les objets, c'est-à-dire le livre en tant qu'objet d'art, parce que la reliure, le papier, les enluminures, tout un tas de travail d'artisan là-dessus. Il n'y a pas que le texte écrit. Il y a toute une beauté, toute une esthétique qui compose ces livres dont nous sommes démunis maintenant. Enfin, il y a des maisons d'édition qui font de très beaux livres actuellement. Mais avant, le livre était un objet d'art. Donc, dans ces grandes bibliothèques des anciens temps, on découvre ces objets d'abord. Et puis, l'écriture elle-même, elle est très belle. Quand on pense que tous les gens maintenant écrivent à l'ordinateur... Ce qui n'est pas mon cas. Moi, je refuse, j'écris toujours au stylo, etc., tout ça, bien que j'ai une écriture assez illisible, malheureusement.
Sauf de vous, j'imagine.
Oui, et de mon assistante qui recompose tout ça à l'ordinateur. Mais à part ça, quand on pense à l'écriture des temps anciens, c'est d'une beauté extraordinaire. Maintenant, il y a l'exposition de Babylon au Louvre. Mmh. Et quand on voit cette écriture sur des pierres, sur des granites. C'est terriblement beau. On a honte d'avoir des écritures modernes avec un non-style presque. C'est dommage.
Alors vous racontez aussi, Enis Batour, dans ce livre, l'extraordinaire odyssée du déménagement de la bibliothèque d'Abi Warburg.
Oui. Oui, c'était une...
Au début du nazisme en Allemagne.
Oui, c'était toujours, et c'est toujours, je crois, un centre de livres très important pour les érudits de l'histoire de l'art. Et j'avais connu un archéologue turc qui est malheureusement décédé maintenant. Lui, il disait, pour chaque sujet, il va falloir constituer une bibliothèque 100%. Vous imaginez une bibliothèque 100%, par exemple pour la poésie.
Intégrale, on va dire.
Oui, c'est ça. Là où il n'y a aucun manque. C'est ce que Abi Warburg tentait de faire. Mais dans les années 1910-1920, c'était peut-être un peu plus facile. Mais actuellement, ce sera difficile.
Vous rapportez donc les propos de son assistant, Fritz Saxel, ouais. Qui raconte que sur chaque sujet, effectivement, il essayait de rassembler des ouvrages de philosophie, d'astrologie, toutes sortes de disciplines, finalement, assez éloignées les unes des autres.
Oui, en plus, il faisait une labyrinthe avec tout ça.
C'est ça.
Sa bibliothèque, quand elle était personnelle, avant de devenir la bibliothèque d'un institut.
Voilà. Donc, Abi Warburg, on le rappelle rapidement, grand historien de l'art
oui.
Allemand.
Donc, dans les années 1890, 1910, c'était une bibliothèque personnelle. Donc, il avait le droit à mettre le livre qu'il veut, où il veut. Et les gens qui visitaient, c'était des grands historiens d'art, un peu jeune à cette époque-là, Panofsky, Gombrich, etc. Et quand il regardait les étagères, il ne comprenait pas grand-chose. Il se perdait. Mais lui, il expliquait comment il faisait des rapports entre tel livre et tel livre. Et ce qui me paraît tout à fait logique, pour quelqu'un qui travaille sur des sujets définis, il est fort possible de mettre des livres qui n'ont pas, à première vue, de grands rapports entre eux. Mais quand on connaît les intérieurs des livres, ils ont des points communs, c'est sûrement, puisqu'ils sont là.
Oui, oui. Alors, je continue, donc, aussi bien des ouvrages d'astrologie, de magie ou de folklore, que d'art ou de littérature, à côté de la philosophie ou la religion. Et vous rapportez, Nis Batur, les propos de Ernst Cassirer, qui dans les années 1920 donc, avait visité cette bibliothèque. Il avait donc saisi la nature labyrinthique de l'organisation de cet ensemble. Il disait, il ne s'agit pas d'une collection de livres, il aurait été plus approprié de parler d'une collection de problèmes.
J'adore cette définition. Pour moi, une bibliothèque qui fonctionne, qui travaille, c'est ça. Ça pose des problèmes, ça possède des problèmes. Vous regardez un mur, mais sur ce mur, il y a des problèmes qui ont des liens entre eux, à travers des livres. Ça, c'est très important, à mon avis. Il y avait un historien turc qui a passé toute sa vie à travailler sur Istanbul. Moi, j'avais eu la chance de visiter sa bibliothèque personnelle, quand il était vivant, il était assez vieux. Vous entriez d'une grande porte, avec des plafonds de 4 mètres de haut, plein de livres partout. Et puis, il y avait des tables sur lesquelles entassaient des livres, des tas de livres. Et pour pouvoir le découvrir, l'homme, il fallait suivre la fumée de sa cigarette. Sinon, c'était impossible de le trouver. Il y avait partout des livres. Et tous ces livres, ces tas de livres, représentaient chaque fois un problème de la ville. Et lui, il savait où trouver ce qu'il cherchait.
Ouais, c'est Cavafis aussi que vous citez, ouais. Qui fait ce lien entre le labyrinthe d'une bibliothèque et celui formé par les rues d'une ville,
oui,
notamment d'une ville qu'on ne connaît pas. Alors, votre bibliothèque, vous-même, Enis Batur, que vous avez reconstituée, hein, vous racontez notamment en 1987, comment vous la décririez?
Mais je peux dire que, en toute proportion gardée, je fais ce que Abi Warburg faisait de sa bibliothèque. C'est-à-dire, ma bibliothèque est divisée en deux. En une partie, il y a des livres à lire. Mais en une grande partie, il y a des livres sur lesquels je vais travailler. J'ai des sujets sur lesquels je fais des recherches, des découvertes. Et au fil du temps, il y a d'abord une étagère, ensuite deux, ensuite trois, ensuite quatre. Par exemple, je travaille sur les ânes.
Les ânes?
Oui.
Les animaux?
Eh oui. Oui, oui. Alors j'ai ramassé tout ce que j'ai pu trouver.
Ils sont en voie de disparition dans
malheureusement,
beaucoup de
oui.
coins d'Europe.
Oui. Ouais. Et là, j'ai, du point de vue iconographique, etc., tout ça, j'ai ramassé tout ce que j'ai pu ramasser. Parce que j'ai envie de faire un livre là-dessus. Je ne sais pas si je vais arriver, mais en tout cas, je fais ce travail toujours.
Vous avez le très beau récit de Juan Ramón Jiménez.
Bien entendu.
Platero y yo.
Oui, c'est traduit en turc d'ailleurs.
D'accord.
En plus.
Alors, ça, c'est évidemment le contraire du cauchemar que vous faisiez, Nisbatour. C'est une bibliothèque vivante, une bibliothèque qui ouvre des portes, qui pose des questions, qui indique des ouvertures possibles. Tout le contraire de cette bibliothèque infinie et universelle où tout repose depuis toujours et pour toujours déjà.
Mais ça fait partie des deux faces d'une même réalité. Dans la première partie, il y a le bonheur qui vous attend. Ce bonheur que les livres vous procurent, le bonheur, l'aide, l'amitié, tout ce que ça peut représenter de positif. Mais de l'autre côté, il y a la perte, il y a l'oubli, il y a la méchanceté de l'homme envers les livres, qui a toujours existé. Donc, malheureusement, on vit des deux côtés d'une bibliothèque, toujours, avec nos rêves et nos cauchemars en même temps.
Alors vous disiez que votre bibliothèque était organisée donc en deux parties. Aujourd'hui, quels sont les derniers arrivants dans la partie de ceux qui vous restent à découvrir ?
Écoutez, j'ai acheté un peu les Polonais cette fois-ci, parce que des fois je travaille sur des littératures de langues différentes, c'est-à-dire il y a eu un bon moment où j'ai lu les Italiens par exemple, une année, deux années sans arrêt. Maintenant c'est les Polonais que j'aimais depuis toujours. J'avais les œuvres complètes de Gombrowicz, de Witkiewicz, etc. Mais j'ai acheté maintenant les Miloš, les Gustav Herling, et puis d'autres. Parce que je me sens en grande affinité avec la littérature polonaise. Je ne sais pas pourquoi, mais...
C'est récent ou...
Non, depuis toujours. Bizarrement, j'ai...
Il faudra peut-être aller chercher pour ceux qui... se lanceront dans un travail de recherche sur votre œuvre du côté de cette littérature pour comprendre peut-être quelques clés pour avoir quelques...
Oui, peut-être.
Parce que, justement, je vous demandais le lien, Nisbatour, entre la lecture et l'écriture. Pour vous, on le sent, puisque une partie de votre bibliothèque est un chantier, finalement, pour ce que vous voulez écrire.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a des écrivains qui partent de rien pour écrire. Je les adore, d'ailleurs. Et puis, il y en a d'autres qui veulent faire des références. C'est-à-dire que j'ai parlé des ânes. Je ne suis pas obligé, pour pouvoir écrire sur les ânes, de lire toute une littérature sur les ânes. Je dis pas ça. Mais moi, je suis de ce côté de la table. Je peux pas faire sans lire les textes des autres. Peut-être pour ne pas les répéter, et peut-être pour me nourrir quand même sur certaines conditions de ce sujet qui m'échappe.
Paver en quelque sorte le chemin qui va vous conduire. Alors j'ai envie de vous citer, puisqu'on a évoqué, donc on est parti de votre cauchemar, cette bibliothèque un peu terrifiante, et puis l'aspect labyrinthique de la bibliothèque. Alors il y a un moment... où je vous cite Nisbatour, à côté de l'identité de Dédale, perce celle de son fils, le désir de l'envol, celui de quitter sa bibliothèque, l'envie longtemps secrète de s'échapper, de fuir vers une autre, une contrée où l'on ne croiserait pas une seule phrase. Donc tous ces désirs prennent le pas sur le penchant de l'enracinement. Je sors. De ma terrasse, je contemple la ville, les collines à l'arrière-plan, puis au-delà, parfois, l'homme s'emplit de l'irrépressible soif d'un silence absolu. Ça vous arrive aussi, c'est ce que vous racontez. Merci Nisbatour, je rappelle le titre de votre ouvrage, D'une bibliothèque l'autre, avec une préface d'Alberto Manguel, une publication des éditions Bleu Autour. Merci encore.
C'est moi qui vous remercie.
Demain, je m'entretiendrai avec Nancy Houston de l'espèce fabulatrice, celle des producteurs de fiction dont vous êtes également, Enis Batour, une publication des éditions Actes Sud. Et à 15h, Toufik Hakem recevra Yvonne Babi pour parler de 15 hommes splendides chez Gallimard. À plus d'un titre, Céline Leclerc, Toufik Hakem, Jacques Munier. À la technique aujourd'hui, Benjamin Chauvin, une réalisation de Malika Mesgache. Vous écoutez France Culture, il est 16h. Pierre Chevalier, l'antenne est à vous.
Sur les docks.